Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Écoutez la planète chanter.
خويا صالح خويا صالح طرق
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Adra ben la cosa dinghe da
dinghe da
Écoutez la planète chanter.
Dans le cadre des fêtes de fin d'année, Unleash Legacies et Potpourri Show vous proposent un jeu concours. Dessine-moi une carte de Noël. Ce concours est ouvert à tous les étudiants et les enseignants de la maternelle des écoles de la région de Toronto. Dessine-moi une carte de Noël. Date limite le 20 décembre. Terminez l'année en beauté avec Unleash Legacies et Potpourri Show. Le gagnant sera au micro de Potpourri Show le 5 janvier 2014 et en plus recevra un chèque cadeau de $300 de l'entreprise Scholastica. Pour tout renseignement, 647-880-06-61. Je répète, 647-880-06-61 ou potpourrishow@simpatico.ca. Dessine-moi une carte de Noël. Bonne chance à tous. Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Dimanche 1er décembre 2013, Potpourri Show et CUTFM vous présentent une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. VIH à sida, objectif zéro. Zéro tolérance, infection à VIH. Zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Aux armes contre le sida. Collaboration spéciale Radio France Internationale, la blogueuse et journaliste du Cameroun, Salma Amador. Montage et mixage, DJ Devera, assisté de Morgan Cott. Une émission réalisée par Eric Kader. Aujourd'hui, peut-on encore mourir du sida ? Quand on bénéficie des traitements les plus récents, les messages et actions de prévention atteignent-ils les populations les plus à risque ? Au programme aujourd'hui, comment vit-on aujourd'hui avec le sida ? Témoignage émouvant des personnes atteintes du sida. 30 ans après le début de la fin de l'épidémie peut-être, Avec plus de 36 millions de morts jusqu'à ce jour, le sida continue d'être un problème majeur de santé publique. Pour marquer l'événement, Radio France Internationale en a profité pour faire le point. Hier, la veille du 1er décembre, avec Bruno Spier, président d'AIDS, d'une des principales associations engagées contre le sida en France, et Pierre-Marie Girard, chef service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Une collaboration spéciale, Nicolas Brousse du magazine Le Débat du Jour à RFI. Ces choses qui font que le sida ne partira pas si tôt, c'est ce qu'on trouve dans le sphère de la blogueuse. Blogtitude, le monde sous la plume de Salma, jeune animatrice de radio et journaliste, blogiste en direct du Cameroun. La Fondation des personnes de Toronto atteinte du sida, pourquoi et pour qui ? Action positive Toronto, éducation, soutien pour les francophones de la région de Toronto atteints du VIH-Sida. Stratégie créative de prévention dans certains pays où les personnes atteintes du VIH-Sida sont toujours stigmatisées. Certains activistes et jeunes cinéastes engagés nous en témoignent. Escale, reportage en direct du Maroc, de l'Inde, certains pays d'Afrique et de la Thaïlande. Les concerts bénéfices de lutte contre le VIH-Sida dans le monde. Puis la chanteuse italiano-canadienne qui sera au concert en janvier chez nous, Lara Fabian, prête sa voix à un nouveau mouvement en France. Des coiffeurs contre le sida. Aujourd'hui, peut-on encore mourir du sida quand on bénéficie des traitements les plus récents ? Les messages, les actions de prévention atteignent-ils les populations les plus à risque ? Nous attendons vos réactions. Pour nous joindre tout au long de l'émission, par courriel pot.pourri@simpatico.ca ou composez le 416 946 7000.
Je sais qu'il faut ramer pour être à ta hauteur. Entre nous deux, c'est sérieux. Tu connais ma valeur. Sans préservatif, tu sentiras ma douceur. Et baisseuse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas, n'y pense même pas. Le préservatif nous protège, toi et moi. N'y pense même pas. Comment oses-tu me demander ça?
Dimanche 1er décembre 2013, Popourri Show CUT FM vous présente une émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est aujourd'hui, en ce 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. L'ONU souligne que, de manière générale, le rythme des nouvelles infections ralentit. Mais ce n'est pas le cas partout. Au Canada, la journée mondiale du sida est le début de la semaine de sensibilisation au sida chez les autochtones. C'est aussi un moment propice pour se livrer à une réflexion sur ce que nous avons accompli à l'échelle nationale et internationale en fait de lutte contre le sida et sur ce qu'il nous reste encore à faire. La journée mondiale contre le sida, qui a lieu le 1er décembre, est l'occasion de commémorer ceux et celles qui nous ont quittés et de sensibiliser le public au sida et à la pandémie du virus du VIH. Dirigée par l'organisme de la campagne mondiale de lutte contre le sida, la journée mondiale de lutte contre le sida 2013 porte le thème Objectif zéro, zéro nouvelle infection au VIH et zéro discrimination, zéro décès lié au sida. À l'échelle nationale, on estime qu'environ 71 300 Canadiens vivent avec le VIH et qu'en 2011, on estime environ 3175 personnes ont été affectées par le VIH. Nous avons tous entendu la phrase « une génération sans sida » et le thème « réduire à zéro » au cours des deux dernières années. Mais où en est le monde et surtout le Canada en ce qui a trait à l'atteinte de cet objectif ? La bataille est loin d'être gagnée. Petit détour en France. Coiffeur contre le sida est un programme éducatif de prévention contre le VIH à sida. Et cette année, pour incarner et soutenir le programme Coiffeur contre le sida lors de la journée mondiale contre le sida, la chanteuse Lara Fabian et son coiffeur David Lucas seront les porte-parole de cette vaste opération de sensibilisation dans plus de 5000 salons de coiffure en France. Lara Fabian.
Comme un ciel d'hiver assaini clair où ça m'endonne comme un grand tonnerre on meurt dès qu'il résonne comme une source claire s'ouvre à la mer et puis fusionne comme un bout de chair. Fais de nous des hommes lorsque des yeux se touchent, tous nos sens s'en souviennent. Qu'un baiser fait de deux êtres, deux amis. Presque éternel, lorsque deux ailes se touchent, tout en nous se réveille. Allez vite dans ce que l'amour a fait cette fois toute la différence.
Dimanche 1er décembre 2013. Popourri Show, CUT-FM, vous présente une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. À l'échelle mondiale, une coalition de groupes de la société civile, à l'échelle nationale, régionale, internationale, unie par l'appel fait au gouvernement pour honorer leurs engagements face au sida dans le slogan « Arrêtez le sida, tenir la promesse ». Pour voir un portrait des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH et de sida au Canada, je vous invite à consulter des documents qui existent sur les sites du gouvernement fédéral, des documents liés au VIH, le sida au Canada, rapport de surveillance en date du 31 décembre 2011. Il y a aussi un rapport très intéressant qui s'intitule « Rapport d'État sur le VIH-Sida et les populations distinctes de l'Agence de la santé publique du Canada sur les hommes gays, bisexuels, bispirituels et ayant des relations sexuelles avec des hommes, des rapports sur avec des femmes, les autochtones, mais aussi des groupes à risque, des personnes provenant de pays où le VIH est endémique et la population noire de descendance africaine, antillaise, caribéenne, vivant au Canada ». Un petit détour. 30 ans après le début de la fin. VIH, SIDA. Est-ce le début de la fin ?
Un nombre record de personnes vit avec le virus du SIDA. On estime que 34 millions d'individus dans le monde vivent avec le VIH. Parmi eux, 3,3 millions d'enfants, dont 94% en Afrique subsaharienne. Cette région du monde reste en effet la plus durement touchée par l'épidémie. On y trouve près de 69% de toutes les personnes atteintes par celle-ci dans le monde. Elle est apparue au début des années 80 quand des chercheurs américains détectent une maladie inconnue chez des patients homosexuels. Le virus est isolé en 83 et en 84 par deux équipes, en France à l'Institut Pasteur, puis aux États-Unis. En 91, le cap des 10 millions de personnes infectées par le virus est franchi. Cette même année, le ruban rouge est adopté comme symbole international de sensibilisation à la maladie. Les trithérapies font leur apparition en 1996. La progression des traitements, qui a fait baisser le nombre de décès à 1,7 million par an, et les résultats cliniques récents qui montrent l'efficacité des antirétroviraux pour prévenir le risque d'infection chez des sujets séronégatifs, laissent penser qu'il est possible d'accélérer la diminution de nouvelles infections. Quant au vaccin, bien que la recherche progresse, les virologues estiment qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant d'y parvenir. Mais malgré ces avancées et le rythme actuel de baisse du taux d'infection, moins 22% en 10 ans, la fin de la pandémie reste un objectif très éloigné.
C'est une grosse parole pour les gens qui sont touchés. C'est une vraie douleur, causée par un gros virus. Un vrai fléau, une vraie terreur. Genre d'histoire, vrai, un vrai thriller. Y'a pas de vrai remède, telle est la cause. Sexe, drogue, malchance, et c'est partout dans le monde. Le truc c'est qu'on peut tous l'avoir, on veut pas tout savoir. On parle pas de ça quand on se met tous à boire. Il a trouvé le filon donc il exploite mon côté. Je dois te faire l'amour avant de finir dans une boîte. Le truc est bien présent, je connais des jeunes qui en plaisantent. Ce que je fréquente me disent laisse nous faire, on représente. On y pense le moins possible, faut pas qu'ils nous coincent. Comme ces princes des affaires en prenant en pince. Moi j'en ai peur et mes gâtes même. L'heure de la mort est écrite de toute façon, on doit tous y passer. Que Dieu nous garde, mais gaffe au virus, l'erreur est coûteuse. Ils traînent dans les zones pauvres comme dans les villas luxueuses. Je vais m'arrêter là,
non.
Pas le droit de garder le silence. Je soutiens ce qui est en sida et je ne veux pas dans mon ambiance. En écrivant ce texte, je pensais galérer 12 heures avant la prise d'un seul coup. J'ai été inspiré, c'est sorti du cœur. Je peux pas sentir le mal, mes excuses, mais tant mieux. Si tu la tiens bon et pense pas que j'abuse. Je te souhaite de vivre, que tu sois dans les transacts de narcotiques ou dans la merde, ou dans des limousines diplomatiques. Mes vers restent simples, on me demande mon point de vue. Après tu vois le résultat et tu juges. Le truc c'est qu'on veut tous l'avoir, on veut pas tout savoir. On parle pas de ça quand on se met tous à boire. Il a trouvé le filon donc il exploite mon côté. Je dois te faire l'amour avant de finir dans une boîte. Le truc c'est qu'on veut tous l'avoir, on veut pas tout savoir. On parle pas de ça quand on se met tous à boire. Il a trouvé le filon donc il exploite de mon côté. Je dois te faire l'amour avant de finir dans une boîte.
Vous qui l'avez, je vais pas vous mentir, faut bien avouer. Je peux pas ressentir tout ce que vous devez éprouver. Espire que si la terre s'ouvrait sous vos pieds, vision troublée. Comment accepter de crever quand il vous reste tant à prouver? Faites le temps que vous le pouvez. La vie est un souffle, un rêve. On tient si fort qu'on peut pas penser qu'il s'achève. Qu'y a-t-il après? Personne ne sait ce genre de choses. Je pense qu'on retourne auprès de l'éternel. Je cause sur un air positif, est-ce de la compassion? Sur les nerfs auditifs pour les victimes de la contagion. Ils n'ont pas tous l'air maladif. Regarde Magic Johnson, les virus aussi vifs. Et y a pas de guérison, mais ne perdez pas la raison. Vous laisserez de grands souvenirs, c'est si fort. Et on dit qu'une saison, puis le dernier soupir s'est forcé. Est-ce une descente amorcée dès la naissance? Non, plutôt une ascension. Voilà ce que je pense.
Le truc, c'est qu'on peut tous l'avoir.
Émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale pour lutter contre le sida. Vous êtes en direct à CUT 89,5 FM. Et je vous rappelle que nous aurons des invités de marque, peut-être vers les midi, heure du Canada, une Camerounaise, blogueuse, la blog de Salma, qui raconte à sa façon les activités dans la région de sa ville, au Cameroun, à découvrir absolument. Elle est journaliste aussi, dans une radio au Cameroun. Elle est animatrice. Et elle sera des nôtres dès midi. Faire une différence positive. Depuis 1987, la Fondation des personnes de Toronto atteintes du VIH à SIDA, des hommes, des transhommes, des transfemmes, des femmes et des enfants atteints du VIH SIDA, existe ici dans la région de Toronto et ils essaient de venir en aide à toute cette clientèle. Et d'après un des porte-paroles, il dit « Nous nous inspirons des voix et du vécu de ces individus. La Fondation des personnes de Toronto atteintes du sida est un lieu accueillant où l'on peut connecter avec d'autres et accéder à des services de support pratique et obtenir de l'aide à naviguer le système de soins parfois complexe et très difficile, surtout pour les nouveaux immigrants. La Fondation des personnes de Toronto atteintes du sida a pour but de promouvoir la santé, le bien-être de toutes les personnes atteintes du VIH-sida en leur fournissant des services accessibles, directs et pratiques. Il y a aussi notre partenaire de la région de Toronto, Action Positive. VIH-sida est un organisme à but non lucratif dédié exclusivement au soutien des personnes et des communautés d'expression française à Toronto et qui vivent avec le VIH-sida et qui en sont affectés ou à risque de le contracter. Il cible particulièrement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, des hommes gays, bisexuels, transsexuels, d'expression française à Toronto. Les services sont offerts de façon confidentielle, sensible, efficace et professionnelle. Approche faite par une promotion de la santé, du mieux-être, de la valeur, des droits des personnes et des communautés qui vivent avec le VIH-SIDA. Plusieurs services s'adressent également aux professionnels et aux intervenants. Action Positive organise mensuellement des rencontres de groupes variés. Les participants et participantes échangent librement sur leurs expériences, s'offrent du soutien mutuel, partagent de l'information et explorent de nouveaux choix de vie, de santé et de mieux-être. Action Positive offre aussi des services à des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles, GLBT, de la région de Toronto. Vous pouvez aller sur leur site web pour tout savoir. Comment se passe le sida en Côte d'Ivoire et surtout quand on vit avec le VIH à sida? Témoignage, reportage.
Vente une vie fragile, Émilie est séropositive. Le sida a emporté tous ses parents et maintenant ça lui ravage. Elle vit avec sa tante dans celle qui était une fois la capitale ville rebelle de Boaké, dans la Côte d'Ivoire centrale. Ici, le sida ne fait que continuer ce que la guerre civile a laissé, emportant les vies humaines avec impunité. Les travaux ménagers quotidiens lui laissent épuisé, atteignant le bout de sa vie sans médicaments. Sa tante ne travaille pas et il y a rarement assez d'argent pour la nourriture. De quoi penser aux médicaments. Elle est l'une de Chansard. Chaque fois après quelques jours, elle se rend seule au centre de solidarité action sociale à Boaké Central. Ici, elle est examinée par des médecins spécialistes en sida, en pédiatrie. Ses visites régulières lui permettent de survivre, de suivre son progrès.
Comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais aussi d'espoir. Car les malades savent qu'un monde sans sida est aujourd'hui possible. Pourtant, 2 millions de nouvelles contaminations ont été recensées cette année et plus d'un million et demi de personnes sont mortes du sida alors que 16 millions de malades ont encore besoin de traitement. À noter que les progrès réalisés cette dernière décennie creusent encore l'écart entre les pays du Nord et ceux du Sud. Un petit retour maintenant avec notre correspondant qui est en Afrique du Sud, qui nous parle un peu de la situation au Congo.
La plupart des Congolais n'ont pas accès aux tests de dépistage. Alors pour les personnes séropositives, il est souvent trop tard. Quand elles viennent se faire soigner, elles sont déjà bien souvent au stade terminal de la maladie. Le Fonds mondial est le principal pourvoyeur de financement dans le pays et Thierry Détier craint une catastrophe humanitaire dans les années à venir. Thierry Détier travaille pour Médecins sans frontières. Il est conseiller analyse et plaidoyer pour la RDC.
C'est un pays qui, sans doute encore plus que les autres, supporte très difficilement le retrait des bailleurs. Et si ça continue, on va droit vers une catastrophe humanitaire parce qu'on peut estimer que d'ici fin 2014, s'il n'y a pas plus d'investissement en RDC, il y aura, donc entre aujourd'hui et fin 2014, il y aura 200 000 décès en RDC dus au VIH-SIDA.
Le budget de la santé de la République démocratique du Congo pourrait être revu à la hausse et des engagements fermes pris en direction des bailleurs internationaux. C'est du moins ce qu'espère Thierry Détier qui estime que la balle sera alors dans le camp de la communauté internationale. Juliette Rangeval, Johannesburg, RFI.
Une chanson version arabe de sensibilisation à la lutte contre le virus du SIDA. Paroles, compositions et chants de Soumeya Abdelaziz, chanteuse marocaine et psychologue.
وتبيع هكدا يا شباب ترخيص راها كتدور من ذات الذات يتأذى بيها شريك الحياة ما تسنى غدك الفجوة يالله صاحبي خلي عقلك صاحي تجي لك حساب لهذوك الحوافي شبابك بين يديك كون علي حريص حنا ينتمنى ونشوفك شي نهار عريس
هاد المرض ما عنده دوا حتى عين ما صب لي لقوا فقدان المناعه
عمي اللقاج راسي كسيدة راها تبسيدة جيب واحد فك وطيحه في الصيدة يقولوا كل من الوحى يحسن من العلاج واجب خير بحدة لحسان في الهدى كبيرة
فرح سويعة
Et oui, madame, monsieur, très belle chanson. Voilà, quand les artistes du monde entier mettent à l'œuvre leur talent pour une bonne cause. En ce dimanche 1er décembre 2013, pour Pourri Chaud, CUTFM vous présente une émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous attendons vos réactions, suggestions, commentaires. Aujourd'hui, peut-on encore mourir du sida quand on bénéficie des traitements les plus récents? Les messages et les actions de prévention atteignent-ils les populations les plus à risque? J'aimerais aussi savoir comment les francophones qui sont atteints du VIH à SIDA aient accès à des services de soins ici dans la région de Toronto et surtout dans leur langue maternelle, c'est-à-dire en français. Si vous avez des expériences positives ou négatives ou encore des suggestions, eh ben vous nous téléphonez au 416 946 7000. Morgan attend votre appel ou encore message confidentiel. Gardez l'anonymat si vous préférez. C'est le pot.pourri@sympatico.ca. Et en ce dimanche, nous saluons tous ces activistes de la région de Toronto. Il y a aussi de la grande visite en provenance du Cameroun. Ce dimanche, il y aura lieu un événement bénéfice pour le réseau juridique canadien VIH-SIDA dans la région de Toronto, au salon Bram et Bluma Apple, bibliothèque de référence de Toronto. Je pense que c'est à 19h aujourd'hui, 789 rue Yonge. Parmi les invités, le lauréat canadien, mouvement de soutien des grands-mères, le lauréat international alternative Cameroun, qui devait d'ailleurs être à nos micros aujourd'hui, mais il est pris dans un genre de déjeuner causerie avec des partenaires francophones à Toronto. Et le conférencier invité, très connu canadien, parlementaire, qui a passé pas mal d'années à la Chambre de communes, sur la colline parlementaire du gouvernement canadien, Sven Robinson. Et oui, et un petit détour en Europe, dans les pays de l'Est, en Ukraine par exemple, l'UNICEF estime que l'épidémie touche de plus en plus de monde, et notamment des femmes essentiellement en raison de rapports sexuels non protégés, signe que les messages de prévention sont insuffisants. Les statistiques officielles indiquent que la transmission du virus se fait aujourd'hui majoritairement lors des relations hétérosexuelles, précise Tatiana Tarasova, responsable locale de l'UNICEF en Ukraine. Et on ne peut donc plus affirmer que le VIH touche uniquement les populations à risque, comme par exemple les consommateurs de drogue ou des personnes du même sexe. Dans une maternité de Kiev, on propose des traitements antirétroviraux aux femmes enceintes porteuses du VIH afin de limiter la transmission du virus de la mère à l'enfant. L'agence Euronews a pu rencontrer une de ces femmes séropositives qui préfère rester anonyme. Elle dit « Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais partagée, j'avais peur pour la santé de mon enfant, mais en même temps, j'étais heureuse d'être enceinte. Je connais plusieurs femmes qui prennent des antirétroviraux et leur enfant est en bonne santé. Savoir ce genre de choses, ça rassure. Le risque d'infection au VIH et son impact ne nourrissent pas nécessairement les violations des droits de l'homme, notamment la discrimination à l'encontre des femmes, des groupes marginalisés tels que les professionnels du sexe, les personnes qui s'injectent des drogues et les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. De plus, le VIH engendre souvent des violations des droits de la personne, comme davantage de discrimination et de violence. Au cours de la dernière décennie, le besoin crucial de renforcer ces droits pour riposter efficacement à l'épidémie et gérer les répercussions est devenu plus évident que jamais. La protection des droits de la personne et la promotion de la santé publique se renforcent mutuellement.
The evolution continues. CIUT 89.5, Toronto.
Thank you.
Hier encore, j'étais vivant, je caressais le temps et jouais de ma vie. J'écoutais les conseils de Malher et Gavi sur les préservatifs et toutes les maladies. Un soir, j'ai ramené une meuf à la maison. C'était plutôt pas mal de se taper un canon. Je ne la connaissais pas, mais tout au fond de moi, jamais je n'aurais pensé qu'elle pouvait me tuer. Hier encore, j'étais vivant aux yeux de mes amis. Moi, j'étais le plus grand qui aurait pu penser qu'un joli soir d'été, ma vie serait brisée et mes rêves envolés. Ignorant le futur, ne vivant qu'au présent, j'avais une âme pure, je n'étais qu'un enfant. J'avais des précautions, mais j'étais jeune et con. Je n'avais pas suivi les conseils de Gabi. Hier encore, j'étais vivant, juste un adolescent qui faisait des folies. Je demande pardon d'avoir perdu la vie. J'ai compris la leçon, mais trop tard aujourd'hui. Victime du sida, ça te laisse pas le choix. Alors fais pas comme moi, surtout protège-toi. La capote tu la mets pas qu'au fond de tes poches, pour pas gâcher ta vie et celle des autres aussi. Ce virus c'est le pire, ton plus grand ennemi. Tes proches sont en pleurs, te portent dans leur cœur, car tu es à présent plus ici maintenant.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, Unleash Legacies et Popourri Show vous proposent un jeu concours. Dessine-moi une carte de Noël. Ce concours est ouvert à tous les étudiants et les enseignants de la maternelle des écoles de la région de Toronto. Dessine-moi une carte de Noël, date limite le 20 décembre et terminez l'année en beauté avec Unleash Legacies et Popourri Show. Le gagnant sera au micro de Popourri Show le 5 janvier 2014 et en plus, il recevra un chèque cadeau de $300 de l'entreprise Scholastica. Les amis, les enfants, les étudiants, les professeurs de la maternelle au troisième année, voilà, vous êtes tous et toutes invités, participez en grand nombre. Encore une fois, la date limite est le 20 décembre prochain. Pour tout renseignement, Unleash Legacies au 647-880-0661. Je répète, 647-880-0661. Ou encore, envoyez-nous un message à pot.pourri@sympathico.ca. Dessine-moi une carte de Noël. Je concours de dessins proposés par Unleash Legacies et Popourri Show. Bonne chance à tous! Émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. Sida Urgence, CUT 89,5 FM sur Popourri Show.
Thank you. fait, tu sais. C'est pas les sida chaiwale, mais des chapeaux pour protéger corps.
Dimanche 1er décembre 2013, vous êtes en direct à Popori Show, CIUT 89.5 FM. Une émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour nous joindre tout au long de l'émission, 86 946 7000 ou encore facebook.com/Popori Show en un seul mot. Ou vous pouvez nous téléphoner directement au studio. Morgane attend votre appel au 86 946 7000. VIH SIDA, objectif à zéro, zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au SIDA. Aux armes contre le SIDA. De plus en plus, des cinéastes s'engagent dans la lutte contre le sida. Par exemple, au Maroc, au mois de juillet dernier, c'était la compétition finale du concours court-métrage contre le sida au cinéma Rialto de Casablanca. Une très belle sélection des films thématiques. Plein de jeunes ont pris leur caméra ou portable et ont participé au concours. 71 films ont été adhérés à la compétition qui traitait la prévention et la sensibilisation du sida auprès des jeunes. 5 films ont été retenus pour la finale. La soirée de projection des courts-métrages retenus a été accompagnée par les médias nationaux, visuels, audio et écrites, et il a aussi attiré l'attention d'un public très important de jeunes réalisateurs et artistes et fans du cinéma. Le film Amal et de son réalisateur Tajeddin et Bekali ont pu attirer l'attention du public et jury, et il a obtenu le premier prix du festival de court-métrage contre le sida, premier de son genre au Maroc. Le film Kebel Ma Ifout Lifout a obtenu le deuxième prix. Et enfin le troisième prix pour le film Amour avec un grand S. C'était une opération de prévention et de sensibilisation du sida auprès des jeunes scénaristes réalisateurs de moins de 45 ans. Cette maladie demeure aujourd'hui un problème de santé majeur pour les nombreuses campagnes de sensibilisation sont encore très très mal comprises dans certains pays, pour le public en général et plus particulièrement par les jeunes. Il apparaît par conséquent comme capital de continuer à développer, soutenir des actions axées sur la prévention. Trente ans après, est-ce le début de la fin de l'épidémie ? Pour marquer l'événement, Radio France Internationale en a profité hier pour faire le point, la veille de cette journée mondiale contre le sida. Et notre ami, collaborateur Nicolas Brousse avait des invités à son micro hier. Il anime le magazine Le Débat du Jour à RFI et il recevait entre autres Bruno Spire, président d'AIDS, l'une des principales associations engagées contre le sida en France, et Pierre-Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Voici un extrait de cette émission réalisée hier par notre ami Nicolas Brousse du magazine Le Débat du Jour à RFI.
Le Débat du Jour,
Nicolas Brousse.
Bonsoir à tous et merci d'accueillir le débat d'RFI. Avec plus de 36 millions de morts jusqu'à ce jour, le VIH continue d'être un problème majeur de santé publique. En 2012, l'année dernière, il y avait environ 35 millions de personnes vivantes avec le VIH. Avec près d'un adulte sur 20 porteur du virus, l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée. Elle concentre 69% des personnes vivant avec le virus dans le monde. Il n'existe pas encore de moyens de guérir de cette infection. En revanche, les traitements efficaces avec des médicaments antirétroviraux peuvent juguler le virus et permettre aux patients de continuer à mener une vie productive et en bonne santé. Mais toutes les populations concernées ont-elles la possibilité d'accéder à ces traitements ? Les messages et actions de prévention atteignent-ils les populations les plus à risque ? Nous en parlons ce soir à l'avant-veille de la journée mondiale de la lutte contre le sida avec nos deux invités. Bruno Spire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président d'AIDS, l'une des principales associations engagées contre le sida. Professeur Pierre-Marie Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. C'est donc après-demain dimanche la journée mondiale de la lutte contre le sida avec cette année encore ce thème, objectif zéro. Zéro nouvelle infection, zéro décès, zéro discrimination. Un objectif pour le moins ambitieux qui a d'ailleurs été choisi pour 4 ans et ce sera la première question que je me pose, moi qui suis plutôt pessimiste mais qui ne demande qu'à être contrarié. Est-ce que c'est pas un objectif tellement ambitieux qu'il est irréaliste ?
Bah, comme tout objectif, c'est pas forcément un objectif qui va être atteignable immédiatement, mais ça montre que c'est quand même faisable avec les progrès de la science, si on y mettait les moyens. Parce qu'aujourd'hui, avec des traitements bien menés, on peut éviter que la transmission continue. Donc si on arrivait à dépister d'abord, puis traiter toutes les personnes qui sont porteurs du virus, ces personnes auraient une espérance de vie normale, mourraient de mort naturelle et ne transmettraient plus le virus. Il n'y a qu'à terme, en quelques décennies, on pourrait imaginer la fin de l'épidémie. Tout ça, c'est bien sûr quelque chose qui est un rêve, mais c'est ça, vers ça qu'il faut aller. Et pour ça, il faut mettre plus de moyens.
Le rêve n'a jamais été aussi proche. Pierre-Marie Girard, vous êtes d'accord ?
Le rêve est envisageable. Toute la question est de savoir s'il est aussi proche qu'on veut bien le dire. Le dernier slogan de l'OMS et d'ONU SIDA, c'était en 2002, ils ont dit 3 millions de personnes sous traitement en 2005. C'était un slogan 3x5. On est arrivé à 1,5 million, la moitié de l'objectif en 2005. Donc finalement, ce slogan, le dernier, a été mobilisateur. Alors si le slogan actuel, qui s'exprime aussi comme une génération sans SIDA, est mobilisateur, bravo, c'est formidable. S'il est démobilisateur, c'est une catastrophe.
Un commentaire sur ce relatif optimiste ?
Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la route est tracée. Maintenant, ça va dépendre de nous tous. Ça va dépendre de la mobilisation des personnes. Ça va dépendre de la volonté politique de continuer à en faire une priorité. et de mettre des moyens de donner un accès au traitement vraiment universel. Et s'il y a la volonté politique, si, et parce que les gens vont se battre pour obtenir ça, alors on peut y arriver. Mais si effectivement on considère qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants et qu'on met ça vraiment sous le dossier de la pile, alors là, effectivement, ça risque de durer encore longtemps et ça risque même d'être pire encore, parce que si on donne pas assez de moyens, il y aura... L'infection ira plus vite que les traitements et il y aura même une augmentation de l'épidémie.
Alors on va reparler de ce problème de moyens. Il y a une chose que l'on constate, les chiffres sont plutôt rassurants, les chiffres mondiaux plutôt optimistes, sauf que la pandémie augmente notamment chez les jeunes, chez les adolescents, un tiers de plus entre 2001 et 2013, c'est même 50% de plus sur les 7 dernières années. La population risque, ce sont les jeunes aujourd'hui ?
Ah, c'est aussi les jeunes. Pour un certain nombre de jeunes dans différents pays du monde, le sida appartient au passé. C'est l'autre génération, c'est notre
C'était
génération.
C'était les années 80. Quoi.
C'était les années 80. Ce matin même, on recevait à Saint-Antoine 200 lycéens, comme tous les ans, à l'occasion du 1er décembre. Et c'est vraiment ça la perception, c'est-à-dire que c'est votre maladie à vous, c'est pas la nôtre. Donc ça, c'est ambiance parisienne, mais c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Je suis entièrement d'accord avec Bruno Spear sur le fait que, comme le disait Jonathan Mann dans les années 90, qui était le responsable d'ONU SIDA, le traitement du SIDA est politique. Donc, et les comptes n'y sont pas actuellement.
Est-ce que le problème aussi, c'est qu'on n'a pas en ce moment de porte-parole qui sont capables de vraiment s'adresser à la jeune génération ? Il n'y a pas de stars qui s'engagent contre le SIDA, effectivement. On a l'impression que c'était valable dans les années 80 et en 2013. Moi, je n'ai pas à l'esprit de star qui me vient comme ça.
Je ne crois pas vraiment à la star miraculeuse. S'il n'y a pas de star, c'est une ambiance générale. C'est parce que les politiques se démobilisent et aussi les médias se démobilisent. Nous, on vient sur les plateaux uniquement autour du 1er décembre. Sinon, peut-être un peu au moment de SIDAction. Voilà, c'est les deux temps forts. Tous les journalistes nous disent c'est une catastrophe, il n'y a plus de mobilisation, on n'en parle plus. Mais les rédactions des journaux n'acceptent plus de sujet SIDA en dehors de ces moments-là.
Mais oui, on est aussi en période de crise globale, mondiale. Et finalement, aujourd'hui, j'ai écouté en venant à la radio, c'était le chômage, les chiffres du chômage, beaucoup plus que les problèmes plus économiques qui dominent. Et on dit après tout, le sida, c'est une affaire de population particulière, comme on dit, ou des migrants. Et donc, c'est pas ça le problème numéro un du français.
Alors justement, vous parlez de la crise, Bruno Spear, vous dénoncez un peu le manque de moyens. Est-ce que, en tant que scientifique, vous ressentez, tous les deux, et en tant que président d'association, ce manque de moyens, vous sentez que la crise est passée par là et que du coup, on se dit, bon, bah, le sida, on verra plus tard. On a déjà suffisamment avancé, en gros ?
Nous, on ressent très fortement, au niveau de ce qui peut déjà se passer en France, l'effet de la crise sur la baisse de nos subventions, où nous avons perdu un quart de nos subventions à l'échelon national depuis maintenant 3 ou 4 ans, et avec toujours de beaux discours comme quoi les associations font un travail extraordinaire, et dans les actes, une baisse inexorable de ces financements publics pour faire des actions de santé publique, comme le dépistage et la prévention, notamment dans les groupes les plus vulnérables où l'épidémie est la plus importante. Et c'est pareil au niveau international, on va faire de beaux discours devant les congressistes, tous les spécialistes du monde entier à Washington, comme quoi la France doit trouver des financements additionnels et augmenter ses contributions grâce à des taxes sur les transactions financières, et on nous vole cette taxe pour combler le déficit de l'État. Donc voilà, on est habitué à ce qu'on parle du sida en disant c'est formidable le travail que vous faites, mais que ça ne suive pas financièrement.
Pierre-Marie Girard, vous pourriez aller plus vite, plus fort, si vous aviez encore plus de moyens ?
Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a contrôler l'épidémie, comme ça a été dit tout à l'heure. À part le vaccin qu'on n'a pas et qu'on ne va pas avoir avant longtemps, on a les outils. C'est-à-dire, on sait très bien que l'un des moyens, c'est dépister, intelligemment, encourager à l'autodépistage, le dépistage par les patients à l'occasion de tout soin.
Alors ça, pour vous, l'autodépistage, c'est une solution.
Enfin,
c'est
Moi, je suis un fervent défenseur depuis longtemps de l'autodépistage et de la vente libre des tests, et si possible, d'un accompagnement comme a été fait par Aide, mais il faut absolument libéraliser cet accès au dépistage. Absolument.
Bruno Spear, vous êtes d'accord sur cette question de l'autodépistage ? Parce que certaines personnes disent le problème, c'est que, ok, on se dépiste à la maison, et si jamais on a la nouvelle de la séropositivité, on est tout seul. Il n'y a pas d'accompagnement d'un médecin qui... comment réagit face à ça ?
Moi, je pense que plus il y a de moyens différents de se faire dépister, et plus il y a de chances que les gens qui veulent pas rentrer dans une démarche de dépistage trouvent celle qui leur convient. Et on sait qu'il y a des personnes qui n'iront jamais voir un médecin, qui n'iront jamais voir une association, et pour qui l'autodépistage sera une solution. Alors il faudra limiter les inconvénients avec un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler s'ils découvrent leur séropositivité pour avoir les bons conseils à ce moment-là et le soutien nécessaire.
Il faut lutter contre cette espèce de sacralisation du dépistage qui doit nécessairement avoir un énorme environnement. Tout ça, ça fait fuir les gens. Il faut libéraliser tout ça.
Et le résultat, c'est que la moitié des porteurs du virus dans le monde ne savent pas qu'ils sont séropositifs.
Et même en France, même pays dit développé, 30 000 personnes sur 150 000 en France qui ne connaissent pas leur séropositivité.
À propos de dépistage, professeur, vous préconisez le développement des stratégies de type opt-out, c'est de l'anglais. Vous dites qu'elles sont plus rentables. C'est quoi le opt-out? J'imagine l'opposé de opt-in, mais...
Écoute, on va essayer de faire simple. S'il vous plaît. Avant, l'idée, c'était qu'il faut qu'il y ait une demande, en somme, de la personne qui veut se faire dépister. Là, c'est plutôt opt-out, c'est-à-dire qu'il faut simplement ne pas refuser. J'espère que c'est à peu près clair.
Donc, si on va faire un bilan sans lien à l'hôpital, par exemple.
Et la personne dit, voilà, on va vous faire un test. OK, on n'a pas besoin de passer un quart d'heure à expliquer pourquoi il faut faire un test. Maintenant, ça n'empêche pas, en deux phrases, de dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Et ça, n'oublions pas cette phrase. Le dépistage à l'insu, il en est hors de question. Hors de question. Mais en revanche, voilà, écoutez, on vous fait un bilan sanguin. À telle occasion, c'est peut-être la bonne occasion, si vous pensez avoir pris des risques, un jour dans votre vie, de vous faire au passage prendre l'occasion de cette prise de sang pour vous faire un test. C'est ça le opt-out.
Ça peut être une solution notamment pour les pays du Sud où le sida est encore considéré parfois comme une sorte de maladie honteuse. On ne veut pas aller dans un centre de dépistage. Ça peut être un plus.
Oui, c'est du dépistage systématiquement proposé, en fait, avec la possibilité de refuser et de pas être, de pas avoir, entre guillemets, de sanctions quelconques en termes médicales parce qu'on a refusé. Donc, ça, faut le garder d'un point de vue éthique. Mais, ce qui est important, c'est se poser la question, pourquoi les gens ont peur aussi? Si les gens ont toujours peur du dépistage, c'est parce que la société, elle évolue pas sur la façon dont on voit les malades du sida aujourd'hui. C'est toujours considéré comme, une maladie honteuse, comme des personnes qui sont des pêcheurs d'une certaine façon.
Et ça partout dans le monde, et pas seulement dans les pays du Sud.
Pas seulement dans les pays du Sud, y compris en France. Le regard de la société sur les malades du sida, il est toujours le même. C'est toujours aussi difficile pour les malades vivant avec le VIH aujourd'hui de dire à leur entourage, à leurs voisins, dans leur travail, qu'ils sont atteints par le VIH. Et c'est pour ça que c'est une maladie à part. C'est pas d'un point de vue médical. D'un point de vue médical, ça se chronicise, ça devient comme une maladie chronique. Mais d'un point de vue sociétal, on est toujours, comme dans les années 80, ça peut évoluer.
Alors au Museum Square d'Amsterdam, on peut voir 5000 croix qui symbolisent les millions d'Africains morts du sida, faute de soins. Les pays industrialisés, et notamment la France, font-ils assez pour aider à la prévention en Afrique et plus globalement dans les pays émergents? Je vous propose d'écouter le point de vue d'un Africain, Aliou Sila, président de l'association Arcade Sida Mali. Vous le connaissez, Bruno Spire, puisqu'avec lui, vous avez organisé un happening hier jeudi, place de la Bourse, à Paris. Car si les mentalités changent, les promesses financières, visiblement, ne sont pas complètement tenues.
Imaginez que en 97, déjà, encore les pays du Nord, il y avait beaucoup, surtout les Américains, qui disaient que les Africains ne savaient pas lire une montre, nous ne savions pas prescrire, nous ne serons pas capables de prendre les médicaments. Et aujourd'hui, au moment où nous avons des personnes compétentes, formées, des plateaux techniques dispo, nous savons comment, nous avons compris la maladie, comment le diagnostiquer, comment le traiter, les médicaments sont disponibles. Comment est-ce que, au moment où l'OMS, par l'évidence, puisse dire que toute personne dépistée doit être mise sous traitement, qu'à l'heure actuelle, on est en train de se poser des questions encore si nous devons avoir accès à ces médicaments-là. À l'heure où nous sommes bâtis en 2001 pour que le Fonds mondial soit une réalité et que Kofi Annan en a fait un instrument, que le monde entier s'est engagé, pourquoi les pays du Nord, comme les pays du Sud, les politiques, les présidents ne parviennent pas à tenir leur engagement? C'est inadmissible.
C'est inadmissible et c'est un sacré paradoxe que relève Aliou Sila. Les Africains n'ont jamais été aussi bien préparés à lutter contre la maladie et pourtant les moyens ne suivent pas. En Afrique, le problème majeur, ça reste l'accès aux soins.
Oui, l'accès aux soins avec... Enfin, malheureusement, comme souvent en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Accès aux soins, dont la première étape est l'accès au dépistage. Et l'accès au dépistage, ça veut dire aussi faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire l'acceptation de la séropositivité par la société. Ali Oussila, c'est typiquement un médecin, un pionnier dans la lutte contre le sida au Mali et en Afrique de l'Ouest en général, et c'est extrêmement important que cette parole soit portée par des professionnels et la communauté comme lui.
Bruno Spire, est-ce que les laboratoires pharmaceutiques jouent le jeu? Est-ce que les labos, les plus gros labos, adaptent les prix de leurs médicaments à leur marché? En gros, est-ce qu'il y a des discounts un peu pour les pays qui n'ont pas les moyens?
Oui, alors il y a des laboratoires qui font un système de prix différenciés. Donc il y a des prix moins chers. Il y a aussi bien sûr des génériques qui sont commercialisés dans ces pays-là malheureusement pas pour tous les médicaments. On sait très bien qu'il faut de la concurrence pour faire baisser les prix. Ça c'est vraiment c'est vrai dans tous les domaines. Donc souvent les laboratoires essayent de concurrencer les génériques en faisant leur propre low cost. Hein. C'est un peu comme dans l'aérien. On va développer sa propre low cost pour finalement qu'il n'y ait pas trop de concurrence. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça fera pas une baisse des prix suffisante. Et même avec des prix bas, les plus bas aujourd'hui, de toute façon, on manque énormément d'argent pour acheter ces médicaments, pour acheter aussi, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi tout ce qui est autour, les mesures biologiques qui sont nécessaires pour suivre le patient, il y a les tests de dépistage, il y a tout ça qu'il faut quand même prendre en compte. C'est pas énormément d'argent. On estime qu'il, pour les trois prochaines années, pour le Fonds mondial, il manque $1 milliard par an à l'échelon du monde pour commencer à voir une inversion de la courbe de l'épidémie. Mais c'est rien.
À l'échelle mondiale, c'est une goutte d'eau.
Un milliard à l'échelle mondiale, c'est le prix de 3 Airbus, c'est la moitié de ce qu'il a fallu débourser en France pour rénover le porte-avions Charles de Gaulle. C'est même pas 5% de ce que va rapporter l'élévation de la TVA en 2014 en France. Donc c'est quand même pas des sommes énormes. Donc c'est vraiment une histoire de volonté politique des États, des pays riches, de dire on veut mettre plus d'argent ou pas.
C'est pour ça que nous, on est. Cette volonté politique n'existe pas. Il n'y a pas une taxe qui doit se mettre en place.
Alors il y a une taxe sur les transactions financières à l'échelon européen, mais par exemple en France, cette taxe, on a le ministère des Finances qui veut diminuer l'assiette pour que ça rapporte moins et qui a peur de cette taxe alors qu'on a dit qu'on la faisait. Et puis en France, François Hollande s'était engagé à dire on va faire déjà la taxe côté français. Et cette taxe est effectivement faite, 90% est volée par Bercy pour être remis dans la réduction des déficits, et les 10% qui restent, qui devaient financer les médicaments, vont simplement compenser la baisse de la subvention de la France. C'est-à-dire que d'un côté, on rajoute un petit peu de cette taxe, de l'autre côté, on enlève la subvention, donc on n'a absolument pas d'augmentation de la somme qui est nécessaire, et on n'aura pas plus de malades traités avec ce type de politique. Les Anglais, eux, ils ont doublé leur contribution au Fonds mondial. Alors qu'ils ont autant de problèmes économiques qu'en France, ici.
Les Anglais peuvent le faire, les Français peuvent le faire.
Voilà, c'est vraiment une histoire de volonté politique. Et nous, on déplore que la volonté politique ne soit pas suffisante. On nous a expliqué que c'est déjà pas mal d'avoir maintenu. Et nous, on pense que non, il faut maintenir, il faut faire surtout beaucoup plus si on veut en finir avec l'épidémie. Parce que c'est pas une histoire de marchandage. C'est une histoire que derrière, il y a des vies et il y a aussi des C'est aussi un mauvais calcul économique. Parce que si on n'arrive pas à traiter suffisamment de gens, il va y en avoir plus qui vont être infectés. Et au total, on va payer plus. Ce sont des experts qui nous disent que si on ne met pas ce milliard supplémentaire pendant les trois prochaines années à l'échelon mondial, on va payer au total 47 milliards supplémentaires à moyen terme. Donc c'est même idiot d'un point de vue économique.
Alors je voudrais qu'on vienne sur les politiques de prévention. Parmi les avancées en la matière, il y a les antirétroviraux que l'on peut prendre à titre préventif. C'est ça? Ça marche vraiment, ça, professeur?
Les antirétroviraux à titre préventif sont, disons, en exploration, en essai actuellement. Ce qui marche, l'événement majeur de ces dernières années, c'est que le fait d'être traité réduit la transmissibilité. Le corollaire de ça, c'est qu'il faut traiter le maximum de gens séropositifs pour qu'ils ne contaminent plus les personnes non infectées. Donc c'est dans ce sens-là que, à mon avis, les antirétroviraux sont une arme absolument décisive, parallèlement aux mesures de prévention qu'on a du mal à mettre en place. Il faut absolument utiliser les antirétroviraux dans ce sens-là. L'autre stratégie de donner des antirétroviraux à des personnes qui ne sont pas infectées est beaucoup plus discutable. Et encore une fois, elle est en cours d'évaluation avec des positions variables selon les experts sur Personnellement, je ne crois pas que ce soit la meilleure stratégie.
Bruno Spire, vous êtes d'accord avec cette opinion personnelle du professeur Pierre-Marie Girard ?
Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur la première partie où, effectivement, il faut traiter toutes les personnes séropositives pour ne pas transmettre. Ça, là-dessus, je pense qu'il y a un consensus. Sur la deuxième partie, je voudrais simplement exprimer le besoin. Il y a des personnes qui ont des sexualités avec beaucoup de partenaires. Et on ne peut pas forcément connaître le statut sérologique de son ou de sa partenaire. Et donc, pouvoir se protéger autrement avec un médicament qu'on prend avant, ça correspond à un besoin et qui sera nécessaire dans une stratégie de fin d'épidémie. Parce que sinon, il y aura toujours des niches avec des groupes qui sont particulièrement concernés où les personnes vont continuer à s'infecter parce que justement, on ne connaîtra pas le statut du partenaire en question. Alors bien sûr, il faut les évaluer, c'est de la réduction des risques, il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Moi, je voudrais simplement exprimer, c'est le besoin de ces communautés en termes d'outils supplémentaires de prévention et que ça ne suffit pas d'avoir le traitement pour les personnes séropositives.
Alors très vite, outils supplémentaires de prévention, la circoncision comme moyen de prévention, il y a de plus en plus d'études, on met en place des politiques dans certains pays, ça aussi ça marche?
Oui, la circoncision c'est assez impressionnant parce que le gros avantage, je veux dire une banalité, c'est que la circoncision on ne l'a fait qu'une seule fois. Donc il n'y a pas un problème d'observance au traitement antirétroviraux, par exemple, qui est le problème qu'il va y avoir avec les antirétroviraux si on les donne en prévention. Donc ça, attention, c'est pas du tout une protection absolue, mais c'est 60% de réduction du risque. Donc déjà dans la situation catastrophique dans laquelle on est, si on arrive déjà à réduire en pratiquant la circoncision chez les adolescents, quand ils n'ont pas été évidemment circoncis dans l'enfance, évidemment que c'est une arme, il faut absolument l'utiliser.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et vous Bruno Spire, président d'Aide.
The evolution continues. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Popourri sur CIUT 89.5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Sida,
Dimanche 1er décembre 2013, vous êtes en direct à Popori Show, CUT 89,5 FM, la radio de Campus Universitaire de Toronto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. VIH-SIDA, objectif zéro, zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida, aux armes contre le sida. Collaboration spéciale Radio France Internationale, la blogueuse et journaliste du Cameroun, Salma Amador, qui sera à nos micros dans un instant. Montage, mixage, DJ devra assister de Morgane. Une émission réalisée par Eric Kader. Et oui, notre prochaine invitée, elle est camerounaise, journaliste diplômée de l'ESSTIC, ce que c'est, on verra dans un instant. Et elle aime écrire dans ses moments perdus, elle est aussi actuellement reporter pour les sites web excelafrica.com et cameruninfo.net. Aussi correspondante pour le mensuel Horizon 2035 et animatrice à la radio Hot Coco à Bamenda. Elle est aussi passionnée des TIC et surtout de l'écriture en ligne. Son blog, Blogitude, le monde sous la plume de Salma. C'est un univers d'expression. Le mot blogitude d'ailleurs est en fait une contraction du mot blog et attitude. Elle a exercé dans le journalisme pendant plusieurs années, notamment au sein du mensuel 100% jeune, en tant que reporter pendant 10 ans, ensuite au sein du site www.reglo.org et aussi au sein de la rédaction du mensuel pour la santé et l'environnement, Together. Elle est aussi membre du collectif Writer de l'Institut Goethe. C'est avec un grand plaisir que elle vous offre ses coups de griffe, c'est elle qui le dit. Et oui, bonjour Salma Amador.
Bonjour à toi.
Oui, comment ça va au Cameroun? Dans quelle région du Cameroun êtes-vous en ce moment?
Je suis dans la région du Nord-Ouest, une région considérée comme étant anglophone.
Ah oui, très bien. We say hello to all our anglophones from Cameroon. D'ailleurs, il y a beaucoup de Camerounais hein, qui sont dans la région de Toronto. Et cela nous fait tellement plaisir parce qu'il y a même de la grande visite, quelqu'un qui travaille pour la défense des droits des personnes atteintes du VIH à SIDA dans votre pays, qui est ici pour recevoir un prix. Il est parmi les lauréats dans le cadre d'un événement assez spécial ici à Toronto. Donc, quelle coïncidence de vous avoir avec nous. Et d'ailleurs, en ce 1er décembre, vous avez écrit sur votre blog vos coups de griffe, coups de cœur, coups de gueule sur cette pandémie, le sida, dans votre pays. Alors avant de dévoiler le fond de votre pensée, de votre blog, partagez à nos auditeurs pourquoi avez-vous et pourquoi pensez-vous que c'est important que vous, femmes, journalistes, reporters, c'est obligatoirement nécessaire d'émettre vos pensées sur un blog concernant le sida.
Disons qu'en tant que femme, on a cette double responsabilité, d'abord en tant que mère et ensuite en tant que femme moderne pour qui la société demande désormais d'avoir un rendu également comme l'homme. Et pour nous, disons dans les sociétés à majorité dominées par des hommes, il est souvent un peu difficile en tant que femme de s'affirmer vraiment pour ce que l'on est. On a cette pensée populaire qui dit que derrière, pour qu'une femme évolue dans la société, il faut toujours qu'elle soit poussée par quelqu'un. Disons que le blog est ce moyen justement que nous trouvons de pouvoir nous exprimer sans avoir cette censure-là de ligne éditoriale.
Et d'ailleurs, vous dites que c'est un peu un rituel à chaque année. Vous dites le 1er décembre, on célèbre encore la journée mondiale de lutte contre le sida. Je vois ici le spectacle habituel, dépistage volontaire, anonyme, table ronde, émission de radio, de télé, tout ça. Mais vous y croyez pas tellement, hein, à tout ça.
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas tellement parce que le message le programme en lui-même est déjà connu d'avance, quoi. Mais j'attends des innovations, je veux dire. Peut-être on nous dira qu'on fait des campagnes de dépistage en foufouldé, qui est ma langue par exemple, ou en wolof. Non, il n'y a pas le wolof ici. Bon, d'autres en bamileke par exemple, et peut-être. Aussi, demander, peut-être dire que cette fois-ci, nous allons mener la lutte par les réseaux sociaux, par les blogueurs. Une autre façon de célébrer cette journée-là.
Et vous êtes assez dur envers les femmes camerounaises. Vous dites, par exemple, les camerounaises aussi, j'oublie, on a beau parler de féminisation de la maladie, pour elles, c'est le gros français. Elles n'y croient pas. En un plus, il est difficile pour elles d'imposer le port du préservatif à leur partenaire camerounais, parce que c'est l'homme qui est toujours chef et roi au lit au Cameroun. N'est-ce pas?
Oui, parce que c'est ça, parce que bon, je ne suis pas dure, pourtant je suis dure parce que vous ne vivez pas notre réalité, mais je me dis que les femmes se laissent volontairement je ne vais pas dire esclaves, mais être soumises à leurs hommes et non pas, je veux dire, moi je suis issue de la partie nord du Cameroun, une partie où la scolarisation pour la femme est impossible, voire c'est tout un combat. Et je vois mal une femme nordiste foufouldée, demander à son homme, par exemple, de mettre le port du préservatif. Elle vous dira que la religion, elle vous dira que elle n'a pas le droit de refuser ce qu'il lui demande, par exemple. Autant de choses, le poids de la religion, le poids de la tradition, et qu'il met dans la tête qu'elle est inférieure à l'homme. Et dans cette infériorité, elle se passe aussi sur le choix du rapport sexuel. Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'elle est prête à avoir ce rapport sexuel non protégé? Est-ce qu'elle peut dire non? C'est ça mon problème.
Et comment les jeunes vivent leur sexualité au Cameroun? Est-ce qu'il y a beaucoup d'émissions de prévention à la télévision, à la radio, dans les journaux? Est-ce qu'on peut parler sexualité facilement avec les jeunes, les adolescents?
Parler bien de sexualité avec les jeunes, oui, bon, je veux dire, au quartier, dans les associations, c'est encore plus libre que dans les médias où vous avez un cadre où on vous dit que on ne veut pas aborder tel sujet, on ne veut pas parler de ci ou de ça. Ça fait toujours partie de la ligne éditoriale. Je me dis, la ligne éditoriale est un frein à ce que l'on veut vraiment dire. Mais sinon, dans le quartier, les jeunes parlent librement de sexualité. Je veux dire, il est facile pour quelqu'un que vous trouvez au parc de vous épaler son tableau de chasse, par exemple, en ce qui concerne les femmes.
D'ailleurs, dans votre blog, c'est très intéressant. D'ailleurs, je demande aux gens d'aller sur votre blog. C'est blogitude.mondeblog.org. Voilà. Mm-hmm. Alors, le blog de Salma. Alors, vous avez, vous traitez aussi le full contact. Vous dites que les Camerounais adorent ça. Il faut voir les nombreuses expressions qu'ils ont trouvées pour ne pas se chausser. Ça freine le mouvement. Est-ce qu'on mange la banane avec la peau? C'est cru.
Oui, c'est ça. Ce sont des expressions qui m'ont...
C'est très camerounais, ça. Est-ce qu'on mange la banane avec sa peau?
Oui, bon, le préservatif, il considère le sexe comme une banane et le préservatif comme la peau. Donc... C'est pour se justifier, en fait.
Oui. Alors, écoutez, ça fait réfléchir. Et puis, moi, je trouve que c'est très important d'avoir une vaste, moyen d'opinion qui s'exprime à la radio, mais aussi à travers des blogs, parce que le virtuel, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Et si on peut s'exprimer... Est-ce que vous avez eu des réactions de la part des hommes ou des journalistes, des politiciens, des gens de votre entourage? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de votre entourage qui lisent votre blog?
Il y a des gens de mon entourage qui lisent les blogs, mais je veux dire en tant que réaction sur le blog en lui-même, pas trop en ce qui concerne des gens qui ont des posts importants. Ils peuvent me le faire sur les réseaux sociaux, mais jamais sur mon blog, parce que des fois ils me disent qu'ils sont exposés, des fois ils me disent que en raison de confidentialité, pour ne pas avoir de problème, mais je connais leur avis. Quand on chatte sur Messenger, par exemple, il est difficile pour les personnes qui ont un certain statut ou un certain rang dans une société de se prononcer de cette manière-là librement, quoi.
Mmh. Et puis, pour terminer, vous pensez qu'il y a encore beaucoup de femmes qui font attention à leur homme parce qu'il y a une dépendance et ils exigent certaines choses, comme par rapport sexuel sans protection, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir la ration, le riz ou le salaire à la fin du mois, n'est-ce pas? Parce qu'il y a encore une dépendance là de la part des femmes qui ont peur de s'exprimer aux hommes, à leurs conjoints.
Oui, il y a toujours cette dépendance là. Oui. Le fait est simple, c'est que ici chez nous, on vous fait grandir, on vous éduque en vous inculquant le fait que une femme n'est une femme en fait que parce qu'elle est mariée. Si vous n'êtes pas mariée, vous n'êtes rien. Donc je veux dire, une femme se mettrait bien en couple avec un homme, même sans amour, et elle aurait des rapports sexuels avec lui non protégés parce qu'elle aurait peur qu'il aille dehors et que celle de dehors puisse accepter des rapports sexuels non protégés et qu'elle le perde. C'est autant de pression auxquelles les femmes fassent.
Eh oui, Salma Amador, madame, monsieur, blogueuse, en direct de Cameroun. Et parlez-nous avant de terminer votre travail à la radio Hot Coco.
Oui, à la radio Hot Coco de Bamenda. En fait, je suis animatrice d'une émission qui s'appelle Vibration Musicale. Comme son nom le dit, c'est une vibration musicale, c'est une sorte de programme qui diffuse de la bonne musique, de la nouvelle musique des sorties, et aussi qui donne quelques news et popotins sur les stars, et aussi des news de manière générale, l'actualité.
Oui, ben, j'espère qu'un jour vous pourrez être notre correspondant régulier en direct de Cameroun, pourquoi pas, pour nous présenter les nouveautés musicales en direct de Radio Hot Coco.
Moi aussi, je serais très ravie. Merci.
Ah ben, merci beaucoup d'avoir été là, et finalement la communication est assez bonne. Nous sommes très très heureux de vous avoir reçu à l'émission aujourd'hui dans le cadre de cette émission spéciale 1er décembre, un dimanche. On est à Toronto, le décalage horaire il est midi 20 minutes. Ici, heure de Toronto, et chez vous, il est quelle heure?
Chez moi, il est 18h45.
Oui. Alors, peut-être votre langue maternelle, pour terminer, à nos auditeurs camerounais de la région de Toronto, un petit message. La parole est à vous, le micro est à vous.
En langue maternelle, je ne pourrais pas, mais en français, oui.
Oui, ben allez-y, Salma.
Bon, c'est de dire à tous les auditeurs de la radio que la balle est dans notre camp, et comme j'ai dit, le sida est vraiment un poids pour un séronégatif. C'est nous, en tant que séronégatif, qui avons le challenge de le rester. Ben, il faut prendre confiance et il faut toujours s'exprimer, il faut prendre la parole. Et surtout les femmes, ne vous laissez pas dominer. Hein. Nous sommes, je veux dire, moi je suis une lionne, donc toutes les femmes devraient être des lionnes, des lionnes indomptables comme mon pays.
Le blog de Salma, blogitude.mondoblog.org, je vous remercie. Très bien, et à très bientôt.
Merci beaucoup, à vous.
Au revoir.
À très bientôt, bon dimanche.
Merci, bye bye. Bye bye. Mesdames, messieurs, l'Afrique du Sud, cette fois-ci sensibiliser les hommes. Reportage.
Leur mission, faire de la prévention. Ces membres d'une association locale de lutte contre le sida arpentent les rues de l'un des quartiers les plus peuplés et les plus pauvres de Johannesburg. Ils distribuent des préservatifs dans les bars et encouragent les hommes à faire un test de dépistage.
Nous essayons de faire prendre conscience aux hommes à l'heure du sida que le virus est là et qu'ils doivent se protéger. Nous sommes venus dans ces bars fréquemment et la première fois qu'on est venu, c'était difficile. Mais maintenant, beaucoup sont habitués à nous voir, donc c'est plus facile.
La lutte contre le sida se focalisait jusqu'ici autour des centres de santé qui sont surtout fréquentés par des femmes. Cette campagne, elle, veut porter le message là où les hommes se trouvent. Il y a quelques semaines, Godfrey a rencontré ici un membre d'une association qui a réussi à le convaincre de faire un test.
J'avais peur parce qu'auparavant j'étais allé à une soirée et je ne savais pas ce qui arriverait et j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien pour moi. Et puis finalement on m'a conseillé et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et tout allait bien.
Actuellement, seul un quart des tests de dépistage en Afrique du Sud sont pratiqués sur des hommes qui donc trop souvent se rendent compte qu'ils sont séropositifs alors que leur système immunitaire est déjà lourdement atteint. Entre-temps, ils peuvent aussi avoir transmis le virus à des partenaires.
Si leur partenaire est séropositif, alors ils pensent qu'ils sont aussi séropositifs. Et donc c'est l'autre personne qui fait le test pour eux en quelque sorte.
Cette clinique du centre de Johannesburg tente de faire changer les habitudes en rendant l'accès aux tests de dépistage plus facile. Tous les employés sont des hommes, les infirmiers ne portent pas d'uniforme. Les hommes qui viennent consulter se sentent visiblement plus à l'aise avec un autre homme en face d'eux.
C'est beaucoup plus simple d'expliquer à un homme parce que nous n'avons pas à nous fier seulement aux explications. On peut aussi aller plus loin et montrer les choses concrètement si c'est nécessaire. Oui, c'est beaucoup mieux quand c'est fait par un homme.
La clinique et la campagne de prévention dans les rues ne suffiront pas, bien sûr, à régler le problème. Mais au moins, les hommes sensibilisés ici aux besoins de prévention et de dépistage pourront peut-être, à leur tour, faire passer le message autour d'eux.
Dimanche 1er décembre 2013, Popouri Show CUT FM vous présente une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Aux armes contre le sida. Portrait d'un porteur du VIH sida grâce à nos partenaires de Radio France Internationale.
C'est un survivant du sida. Le diagnostic est tombé en 1989. Jean-Jacques Simon est donc malade depuis plus de 22 ans.
Ce que je voudrais, c'est que comme d'habitude, en fait, tout parte aller au docteur Doll.
22 ans et au moins 200 analyses de sang en laboratoire et des milliers de boîtes de médicaments.
Elle a vécu cette ordonnance.
Quoi qu'il arrive, Jean-Jacques a toujours des médicaments d'avance. Ça, c'est sa réserve.
Ce soir, je vais prendre, pour la trithérapie proprement dite, je vais prendre celui-ci, un de celui-ci, un de celui-ci, un de celui-ci pour booster les deux autres. Je vais prendre un comme ça pour les douleurs, les neuropathies dans les jambes, un autre comme ça pour les douleurs dans les jambes, pareil. Deux comme ça pour les cholestérols qui est dû au traitement que je prends.
Il y a 20 ans, nous l'avions déjà filmé pour le magazine Envoyé spécial. À l'époque, les malades du sida mouraient les uns après les autres. Jean-Jacques, lui, n'avait qu'une hantise.
Il m'arrive un truc le lundi, je décède le vendredi dans la foulée, vite fait, sans trop jongler. Ça me fait pas peur particulièrement, c'est pas un truc qui me fait peur. Mais bon, c'est plus le côté de déchéance.
Ces années sida, il les raconte dans un livre plein d'humour. Et il écrit aujourd'hui la suite. Sa vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais le virus peut s'apprivoiser.
du fait d'être compagnon, on est quand même obligé d'essayer de vivre en bonne harmonie. Donc moi, ce que je fais pour éviter justement lui de le perturber afin que lui ne me perturbe pas, c'est de manger le plus sainement possible, c'est de pas prendre des produits bizarres, c'est pas de faire des choses qui vont mettre ma santé en danger.
L'hôpital Mignot dans les Yvelines. Jean-Jacques y est suivi depuis le début par le même médecin. En 22 ans, le docteur Doll a dû changer 12 fois le traitement de son patient. À chaque consultation, voilà. Le malade a peur de la sentence.
Les CD4, ils sont excellents, sont normaux et la charge virale, elle est très bonne. Hein. Il n'y a pas un tout petit poil qu'il faut qu'on revoie rapidement, mais ça va bien. Voilà. Il y a eu des moments très difficiles. Hein. Moi, j'étais là pour l'accompagner, mais c'est lui qui s'est battu. Et il s'est battu. S'il ne s'était pas battu, peut-être il ne serait plus là.
Entre ce suivi, mes amis, et... Voilà, ça me suffit, quoi. Ça, c'est ce qui me donne, moi, c'est ce qui me donne l'envie, quoi.
L'envie de gagner encore beaucoup de temps. Jean-Jacques Simon a 52 ans et plein de projets en tête.
Émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Dimanche 1er décembre 2013. Une émission proposée par Popourri Chaud et CUT 89,5 FM. Sida Action. Des humoristes à une télé marocaine. Écoutons attentivement.
Allô, bonjour.
Oui, monsieur, bonjour.
S'il vous plaît, moi je veux faire un don.
Tu veux faire un don?
Oui.
Allez chez le dentiste, monsieur.
Ah non, monsieur, mais ça n'a aucun rapport avec le dentiste. Moi, je veux donner.
Ah, tu veux donner? Quand tu vas partir chez le dentiste, tu vas donner l'argent.
Mais non, monsieur, moi, je veux donner. Je veux faire un don aux personnes atteintes au sida.
Ah, tu veux faire un don aux gens atteints au sida?
Voilà, monsieur, c'est ça.
Mais les gens au sida, ils ont déjà des dons.
Khoya.
Oui, khoya.
واش كتسمعني مزيان؟
كنسمعك.
وترضك ليا ودنيك مزيان وسمعني اش غنقول لك. انا صافي 3 عام ما جيت المغرب، سمي عبد القادر. دابا بغى يعطي فلوس للحملة ديال التبرع ديال السيدة، كيفاش دير؟
صافي اسمح لي، عيط اخويا ل 080-203-2010.
والله العظيم ما طلع لي الزعف الصباح هذا، قولها من الصباح.
من الصباح.
سيداكسيون 2010 أمسية خاصة مباشرة انطلاقا من الساعة 9:15 مساء فكونوا
right here right now every day
right here right now right here right now
CIUT 89.5 the sound of your city.
Stratégie créative de prévention dans certains pays où les personnes atteintes du VIH-SIDA sont toujours stigmatisées, certains activistes et des jeunes cinéastes engagés un peu partout à travers le monde en témoignent. Escale en Inde. L'Inde, pays toujours stigmatisé, l'Inde peine à combattre le SIDA. Reportage.
La soirée est plutôt calme pour Rupali. Cette prostituée transsexuelle attend des clients potentiels dans la banlieue de Delhi. Elle a l'un des emplois les plus dangereux en Inde, car dans sa communauté, toujours très marginale, le nombre de malades du sida est le plus élevé du pays. Et cette épidémie n'est pas la seule menace qui pèse sur elle.
Nous sommes confrontés à tellement de dangers, surtout de la part des voyous du coin qui essaient de nous faire peur. Ils nous menacent avec des couteaux pour nous voler notre argent. Ils se comportent très mal avec nous.
Alors, Rupali et ceux dans son cas se font épauler par des associations locales comme celle-ci. Mais ces dernières avouent que malgré leurs efforts, il est très difficile de lutter contre la propagation du sida dans les communautés gays et transsexuelles indiennes. Alors que l'on estime à 0,3% les Indiens vivant avec le sida, ce chiffre est de 7% lorsqu'il s'agit de la population homosexuelle. Des circuits de prévention et de distribution de préservatifs ont été mis en place, mais il est souvent difficile de faire parvenir ces services jusqu'aux plus vulnérables.
Même aujourd'hui, en Inde, les gens ne sont pas assez ouverts pour dire clairement « je suis gay ou transsexuel, j'appartiens à cette communauté ». Alors leur pratique sexuelle reste cachée et très confidentielle. et du coup, ils ne peuvent pas se protéger.
Les associations préviennent qu'il faut absolument augmenter le budget afin de cibler ce groupe. Pour le moment, seulement 4% de l'argent public pour la lutte contre le sida va à la communauté gay, des ressources insuffisantes.
Tous les efforts que nous avons faits pour mobiliser la communauté et sensibiliser ses membres au problème du sida et pour leur faire connaître leurs droits, tout cela ne va servir à rien.
Et les craintes s'étendent désormais au reste de la population indienne, crainte que le nombre de personnes atteintes du sida, réduit de moitié ces 10 dernières années, n'augmente à nouveau. Une possibilité bien trop effrayante pour être envisagée.
D'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle, recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire moucher, rentrer seul quand le soleil se couche.
Émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour nous joindre tout au long de l'émission, pot.pourri@sympatico.ca ou encore 86 946 7000. Aujourd'hui, peut-on encore mourir du sida quand on bénéficie des traitements les plus récents? Et les messages et les actions de prévention atteignent-ils les populations les plus à risque? Nous attendons vos réactions à pot.pourri@sympatico.ca. Merci de votre fidélité.
Oui, de nos jours, le sida n'a pas d'amis, alors fais en ton ennemi.
Analyse.
Mais pour mieux prévenir, faudrait bien te couvrir. Pour être plus actif, mets ton préservatif.
Pas mieux, yeah. Tu aimes la vie et tu aimes les femmes. Tu rêves de collectionner des compagnes. Tu veux qu'on t'appelle le jockey de ces dames. Mais une capote en pile à condom. Sa protection ne croque jamais la pomme. Même si elle est belle et te paraît bonne. Écoute mes conseils, écoute mes gueldons. Big things are one coming to city.
Watana, Tida, Tida, Tida aventure. Un tout petit virus compromettait ton futur. Watana, Tida, Tida, Tida aventure. Un tout petit virus compromettait ton futur. Tida aventure. L'amour décide de te sourire. Si l'aventure, tu décides de te laisser séduire. N'oublie pas que ta flamme sans pitié peut te nuire. Si d'amour et d'eau fraîche, tu veux te nourrir. Sache que dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. À l'intérieur, il fait chaud, mais il faut te couvrir. Les années 70 ont vu la libération du sexe. Les années 90, l'enveloppe de la tête. Watana, sida, sida, sida aventure. Un tout petit virus compromettait ton futur. Watana, sida, sida, sida aventure. Un tout petit virus compromettait ton futur.
L'amour positif. Pour ne pas être séropositif.
Yeah. Please proceed to gate number 5 for immediate boarding.
Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de la journée mondiale contre le virus VIH-Sida. Pour nous joindre en studio, c'est le 86 946 7000.
Je suis ton nouveau génocide, un meilleur adversaire que la pointe d'une arme à feu à l'aube d'un conflit nucléaire. Les victimes infectées de leur enfer capitulaire n'ont pas assez redouté l'air de cette époque caniculaire, de ma présence dans vos chaumières, vos amis et vos pères qui vous détruisent avec talent qui s'envenime et prolifère. J'emporte une âme chaque 10 secondes, j'ai bien rempli mon agenda. La faucheuse m'a nommé comme trépas, appelé sida, 40 millions de détenteurs et 60 de plus dans 10 ans. Les hommes, les femmes sans épargne et les enfants, je n'ai pas de moralité ou de vos sentiments, je suis une pandémie cruelle qui contamine le sang des gens, membre à part de vos sociétés. Triste normalité, une roulette russe au barillet plein qui hausse le taux de mortalité, a toujours élevé son score, a lancé un effroi sur les personnes qui disparaissent en masse fauchées par le sida. J'ai trop emporté de vie, j'ai trop de terre sous les ongles, à vous réduire en préparant vos propres tombes. Je suis une hécatombe, devine ce qu'on ressent quand on vit avec une bombe à retardement dans le sang. J'ai trop emporté de vie, j'ai trop de terre sous les ongles, à mélanger. J'y revenant briser votre ronde. J'invente un nouveau monde, devine ce qu'il ressent quand il voit ses enfants qui partent avec le temps. J'arrive sur moi juste une seule fois, fous toute ta vie en l'air. Le regard des gens sur toi et ton système immunitaire. Je te retire ce que tu es, tes rêves, tes inventaires. Je t'écris ma nouvelle histoire où tu crèveras en solitaire. Crois pas que le monde est solidaire. Il jugera ce que t'as, te fuira comme un cauchemar qui aime pointer le doigt sur toi. Et j'assassine encore les fous qui ne se protègent pas, au risque de m'attraper demain et avoir le sida. J'ai peut-être encore un espoir d'être éradiqué, de voir le monde bouger un peu, agir et moins polémique. Ma guerre a trop coûté de vie et courte et l'humanité. Alors écoute quand on te dit prudence quand tu vas niquer. Ne joue pas avec moi, avec un étendard qui te fera payer ta vie pour une petite erreur d'un soir. On soigne mais ne guérit pas chacun de mes faux pas en attendant que disparaisse de la planète le mot sida. J'ai trop emporté de vie, j'ai trop de terre sous les ongles, à vous réduire en préparant vos propres tombes. Je suis une hécatombe, devine ce qu'on ressent quand on vit avec une bombe à retardement dans le sang. J'ai trop emporté de vie, j'ai trop de terre sous les ongles, à m'élargir en venant briser votre ronde. J'invente un nouveau monde, devine ce qu'il ressent quand il voit ses enfants qui partent avec le temps. Alors ouvre les yeux, regarde, regarde un peu la terre. La contamination qui fait sa guerre dans notre sphère, qui a pris là sa l'habitude de laisser faire. Une fois lancé, où serait la marche arrière pour changer l'atmosphère. Avant nous les trous en face des globes oculaires, face à un drame qui se propage comme un mouvement d'auriculaire. On effleure la bonne voie mais à sa perpendiculaire. Combien seront morts pour que ça s'enterre sous ta masse capillaire. Alors regarde, regarde un peu l'osmose, entre ces jours meurtriers qui peinent à guérir de leur
et qui m'ose. Je vois la noirceur de l'histoire quand l'agonie voit rose. A trop salir le monde en la dévergondant en autre chose. Alors regarde, regarde un peu en bas ceux qui jouent avec le feu et ceux qui touchent la mort du bout des doigts. Ne deviens pas ce que la mort te reprochera en emportant ta vie qui s'éteindra toute seule par le sida. J'ai trop emporté de vie, j'ai trop de terre sous les ongles. Un four est dur en préparant vos propres tombes. Je suis une hécatombe, devine ce qu'on ressent quand on vit avec une bombe à retardement dans le sang. J'ai trop emporté de vie, j'ai trop de terre sous les ongles. À m'élargir en venant briser votre ronde. J'invente un nouveau monde, devine ce qu'il ressent quand il voit ses enfants qui partent avec le temps.
Journée mondiale contre le sida. Occasion de commémorer ceux et celles qui nous ont quittés et de sensibiliser le public au sida et à la pandémie du virus du VIH. Dimanche 1er décembre 2013, Popourri Show CUTFM, la radio de l'Université de Toronto, vous présente une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Bien sûr, nous remercions tous nos amis, ceux et celles qui militent depuis de très nombreuses années dans la région de Toronto, les francophones, les activistes, les personnes engagées pour lutter contre le VIH à SIDA. Nous leur rendons hommage à notre façon, entre autres nos amis qui sont à l'organisme Action Positive VIH à SIDA, cet organisme à but non lucratif dédié exclusivement au soutien des personnes et des communautés d'expression française à Toronto, qui vivent avec le VIH-SIDA et qui en sont affectés ou à risque de le contracter. Je vous rappelle que cet organisme cible particulièrement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les hommes gays, bisexuels, transsexuels d'expression française à Toronto. Les services sont offerts de façon confidentielle, sensible, efficace et professionnelle. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site web ou encore nous envoyer un message. Peut-être on pourra vous envoyer copie de cette émission. pot.courrier@sympatico.ca. La Thaïlande doit faire encore plus contre le sida, apprend-on. En 25 ans, la Thaïlande a réussi à peut-être réduire de façon importante le nombre de personnes contaminées par le sida. Mais le pays ne doit pas se reposer sur ses lauriers alors que certains groupes à risque sont particulièrement touchés. Reportage.
Contenir l'épidémie de sida en Thaïlande. Des bénévoles donnent à ces transsexuels d'un cabaret de Bangkok un cours intensif sur les rapports protégés, des conseils accompagnés d'une généreuse provision de préservatifs.
Je fais ça parce que je veux que mes amis et mes sœurs sachent comment se protéger. Ce que je fais est important parce que la société nous regarde comme un groupe à risque de toute façon.
La Thaïlande reste l'un des pays les plus touchés de la région, même si elle a fait d'énormes progrès dans le contrôle de l'épidémie. Selon les estimations, les nouvelles contaminations ont chuté d'environ 150 000 par an en 1990 à 12 000 l'an dernier. Et des médicaments antirétroviraux bon marché ont aidé à réduire de moitié le nombre de morts liées au sida. Cet homme a appris qu'il était séropositif il y a 10 ans. Aujourd'hui, il donne des conseils aux autres et un peu d'espoir.
J'ai cru que tout était fini. Je me suis préparé à mourir parce qu'il y a 10 ans, je pensais que le résultat, c'était seulement la mort. Mais maintenant, ça a changé. Alors je voudrais dire aux autres amis contaminés, vous avez peut-être envie d'abandonner, vous êtes peut-être triste, mais un jour, dans le futur, vous serez plus fort, vous serez vous-même à nouveau, ou vous deviendrez une nouvelle personne, encore plus forte.
Mais certains craignent que plusieurs groupes ne soient oubliés. En Thaïlande, 20% des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes seraient séropositifs, et entre 20 et 40% des consommateurs de drogues injectables. Un groupe moins enclin à demander de l'aide en raison d'une politique anti-drogue très stricte.
La Thaïlande doit faire beaucoup plus en termes de prévention, en particulier si notre objectif est d'atteindre à zéro victime. Les nouvelles contaminations doivent être réduites de 2/3. Alors, avec ce groupe de population, nous devons faire plus.
Ces objectifs sont très ambitieux. Pour les atteindre, le pays devra s'attaquer à la stigmatisation et aux discriminations, et surtout parvenir à toucher ceux qui sont le plus à risque.
Émission spéciale sur le VIH-Sida. Madame, Monsieur, nous sommes presque à la fin de cette émission de 2 heures. Vous avez encore quelques minutes pour nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, des questions. pot.fourier@sympatico.ca. Qu'en est-il en Haïti? Combat SIDA, Acti Crédit, Haïti. Reportage.
Yon projet pilote lancé en Haïti pour aider les gens qui sont marginalisés dans la société. Programme ça a prêté famille qui fait face à la maladie SIDA l'argent pour faire commerce. C'est San Gescio, dans tête collée à CACME, une institution financière qui prend initiative ça. Docteur Marie-Marcel Deschamps, c'est une responsable projet. Il dit que microcrédit a augmenté chance pour maladie civile.
Grande partie de monde qui est infecté, le nous garder état nutritionnel yo et situation économique yo. Remarquez c'est des monde qui ont des besoins économiques importants, yo gagne une déficience non seulement la capacité de manger ou de vivre yo, mais c'est des monde le plus souvent pas un travail, qui chercher travail. Et là, nous bayons médicaments, nous voyons que les malades ont vraiment conditions physiques, ils vivent nettement mieux, ils sont en santé et ils veulent travailler, ils demandent de travailler.
Depuis 2005, plus passé 2500 personnes jouent prêt. Ils remettent seulement 2% d'intérêt sur l'agence. Bénéficiaires, c'est les femmes qui sont malades avec sida ou bien qui vivent avec un partenaire qui est infecté. Tamara François Registre, c'est un travail social dans Gescio. Il évalue la capacité candidat à gagner pour lui remettre l'argent prêté. Il assure que les bénéficiaires aient un plan pour le business avancé et puis ils paient une dette sous doule.
Avant que nous ne recevions prêt, nous avons une subvention que nous bail. Nous avons nous envoyé mon yo dans magasin Botopolino, ok, yo bayo et on marchandise puis al vendre. Après, nous venons faire un pack. C'est selon l'impact ça, après nous capable boire monde ça, ça nous te balé avant que le fait prêt, est-ce que le capable gérer? S'il gère bien, ça que lui rapporter et puis ensuite nous enrouler dans microcrédit. Vous voyez là le fait prêt.
Bénéficiaire prêt cap vivre avec maladie sida doit suivre tout un traitement antirétroviral. Gescio fournit médicaments gratis by plus passer 4000 moun. Les malades là prennent médicaments yo, ça qui est en santé pendant longtemps. Lorsque bénéficiaire programme en santé, li paye prêt à pi bien tout. Depuis 1983, statistiques montrent que nombre moun qui infecté yo passé de 6.9% à 2% actuellement. Dame ça a participé dans programme microcrédit depuis environ 4 ans. Li vinn nan San Gescio pour suivre traitement et prendre conseil pour faire business lien progresser. Mamzelle débrouille sans problème grâce à 20 produits cosmétiques dans la rue.
Premier prêt moi t'ai gagné en ville sur 6 mois. Après me vinn prendre yo devin ban $1,000. Après $1,000 vinn 2000, 2000 vinn 3000, 3000 vinn 4000 jusqu'à ce que m'am dans 7000. M'a payé $1,307 le mois sur 6 mois pour me fin payer.
Li dit que programme microcrédit a kembe l'envie.
Bon, moi-même, li ban grand bénéfice. Parce que moi, pas gen personne. Personne, c'est celle microcrédit. C'est bon Dieu qui fait que me fait rencontre à l'hôpital là, pour me décager un docteur Deschamps, pour te référer nous, dans le microcrédit.
Presque pas gen programme dans le monde qui prête si bien l'argent. Haïti, c'est une exception. Au commencement, programme ça, c'est une expérience sociale. Je dis à l'Union gros succès.
Eh bien, nous remarquons de près de plus de 2500 monde que nous référons déjà, que nous suivons de près résultats. Nous voyons après près de 3 ans de suivi, 90 à 95% remettent Cobla. Et succès en fait que nous remettent Cobla dans les 6 mois après.
Investir dans le monde qui vit avec maladie sida, capable de moyen puissant pour lutter contre maladie ça. Pour Fabienne lui-même, programme nan bal yon deuxième chance dans la ville.
Dimanche 1er décembre 2013, Popouri Show CUTFM vous présente une émission spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Comme chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le sida apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais aussi d'espoir. Car les malades savent qu'un monde sans sida est aujourd'hui possible. Pourtant, 2 millions de nouvelles contaminations ont été recensées cette année et plus d'1,5 million de personnes sont mortes du sida, alors que 16 millions de malades ont encore besoin de traitement. À noter que les progrès réalisés cette dernière décennie creusent encore l'écart entre les pays du Nord et ceux du Sud. J'espère que cette émission vous a éclairé pour mieux comprendre un peu la situation de cette pandémie mondiale. Nous devons remercier ici nos collaborateurs, entre autres Radio France Internationale et des nombreux reporters à travers le monde, la blogueuse et journaliste du Cameroun, Salma Amador, qui sera peut-être des nôtres lors de nos prochaines émissions, DJ Devera pour le montage, le mixage, assisté de Morgan Cotte. Ici Eric Adair, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à notre émission régulière. Passez une bonne journée.
Je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident. Ton peu préservatif et prenons du bon temps. Cesse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas, n'y pense même pas.
Non.
Le préservatif nous protège toi et moi. N'y pense même pas. Comment oses-tu me demander ça? N'y pense même pas. T'as perdu la tête, t'es pas bien ou quoi? N'y pense même pas. D'abord on fait le test et après on verra. Je sais pas, j'hésite, oui, non.
Hey, tu es tellement belle. Je ne veux que ton bonheur, je sais qu'il faut ramer. Pour être à ta hauteur, entre nous deux c'est sérieux. Tu connais ma valeur, sans préservatif tu sentiras ma douceur. Bébé, c'est ce que me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas. Le préservatif nous protège toi et moi. N'y pense même pas. Comment oses-tu me demander ça? N'y pense même pas. T'as perdu la tête, t'es pas bien ou quoi? N'y pense même pas. D'abord on fait le test et après on verra.
J'ai mis ma fierté de côté. Hey, je me suis jeté à ses pieds. Hey, je pensais qu'elle allait céder. Hey, elle m'a répondu.
N'y pense même pas.
Je lui ai offert des bijoux, hey, je l'ai embrassé dans le cou, hey, hey, je te donnais fou, hey, elle m'a répondu,
n'y pense même pas, n'y pense même pas, le préservatif nous protège toi et moi.
ça, n'y pense même pas. T'as perdu la tête, t'es pas bien ou quoi? N'y pense même pas. D'abord on fait le test et après on verra.
T'as vu, franchement on se marie direct après. Laisse-toi aller, Lucia.
Pourtant c'est vrai, il est vraiment séduisant. Attentionné, charmant, craquant, élégant. Sans préservatif, il y aura plus de sentiments. Sans préservatif, avec lui c'est si tentant.
Nous sommes ensemble quand même depuis 6 mois.
Quand même.
Donc pourquoi pas changer d'avis.
Sur quelle planète suis-je tombée?
La planète Terre.
Bonjour.
RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Abandonne-toi à moi.